Bonjour à tous, merci d'écouter Fréquence Mistral. C'est l'heure de notre magazine d'information régionale proposé et présenté par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Sommaire de ce magazine, la signature à Marseille d'une convention avec la Chambre de commerce de la métropole permet l'avancement du projet de la Villa Herbel dans le 11e arrondissement. Le reportage de Colline Jutet dans ce magazine. Les élus de l'agglomération Manosquine ont choisi le scénario de la délégation de services publics pour gérer le futur centre aqualudique. Nous entendrons le président de la DLVA, Jean-Christophe Petrini, dans un instant. Poésie et chanson, Dominique Zamparini a interprété Gaston Coutet à Valensole. Odile Frison l'a interviewé. Le retour des estivales sur les communes de Durance, Luberon, Verdon, agglomération, 2 mois d'animation musicale, plus une séance cinéma en plein air vont rythmer l'été. Marseille, une convention pour le projet de la Villa Herbel.
Dans le 11e arrondissement, c'est un lieu chargé d'émotions où la résistance et le surréalisme sont convoqués. Les ombres de Varian Fry, Max Ernst, André Breton et tant d'autres continuent d'imprégner les murs. Pendant les années sombres, la Villa Herbel a accueilli des réfugiés fuyant le nazisme et le régime de Vichy. Située dans le quartier de la Pomme, la bâtisse et son imposant parc peuvent bénéficier d'aide dans le cadre de la politique de la ville. Le projet de création d'un centre culturel et de développement d'un pôle d'activité avec un site mémoriel est porté par l'association Villa Herbel que préside Bernard Mossé. Le 16 juin, ce dernier a signé une convention de partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de la métropole Aix-Marseille-Provence. À la clé, l'appui au projet et la volonté de favoriser l'entrepreneuriat dans un quartier sensible. Colline Jutet a assisté à cette signature. Bernard Mossé parle du projet général artistique, urbanistique et social, mais d'abord, Jean-Luc Chauvin, qui préside la Chambre de commerce et d'industrie Aix-Marseille-Provence, évoque les objectifs économiques.
Quel est le rôle de la Chambre de commerce et de l'industrie dans le projet Villa Herbel ?
Le rôle de la Chambre de commerce et d'industrie dans le projet Villa Herbel, il est multiple. D'abord, il est d'accompagner un projet fort en termes de devoirs de mémoire, d'histoire sur le territoire, et aussi d'histoire multiculturelle et d'histoire, quelque part, de multiculturalisme de notre territoire. Il est évidemment un projet aussi d'accompagner un développement économique avec des habitants de quartiers prioritaires de la ville, de QPV comme on dit, qui cherchent à pouvoir trouver des solutions pour mieux travailler, s'insérer et fonctionner. Autrement dit aussi, donner une alternative à une économie dite souterraine. Et ça, ça nous tient à cœur. Et on le fait déjà avec d'autres quartiers prioritaires de la ville, sur d'autres sujets, mais on a un certain nombre d'outils, comme le tandem du mentorat, pour les gens qui ont envie de créer leur entreprise et qui sont coachés, accompagnés par un entrepreneur chevronné, parce qu'on sait que quand un entrepreneur qui crée est accompagné, son pourcentage de réussite est bien plus important. Voilà. Et puis le troisième sujet, c'est, je le disais aussi au début, c'est tout ce qui touche à la formation, à l'accompagnement, à l'insertion, au fait aussi pour nos entreprises qui ont besoin de trouver des collaborateurs, en les ayant formés, en ayant fait connaissance. Et en particulier, là, le secteur qui est visé, c'est le secteur culturel. c'est le secteur des industries créatrices et culturelles. C'est le secteur de l'art un peu pointu qui a été celui que Varian Fry a utilisé pour permettre de sauver un certain nombre d'artistes. Donc voilà, c'est à la conjonction à la fois de quelque chose qui est économique et qui est notre rôle, mais aussi de quelque chose qui est sociétal à travers le devoir de mémoire et le devoir d'insertion, ou la volonté d'insertion, ce qui est tout à fait aussi dans notre vocation. Et puis enfin, moi je l'attache une importance une importance significative, c'est le fait d'avoir un projet qui soit partagé par l'ensemble des intervenants possibles, par l'ensemble des acteurs, pour faire en sorte que du coup, en étant ensemble, on donne un signal fort et on assure une pérennité, on peut aller plus loin. Et donc il y a le consulat, comme ça a été dit directement des États-Unis, qui est impliqué, mais il y a aussi l'héritière de la fondation Guggenheim, mais il y a aussi des collectivités territoriales, mais il y a aussi des interpros, ce qu'on appelle nous des syndicats patronaux, et il y a aussi, je dirais, les acteurs universitaires, les acteurs de l'enseignement, les acteurs culturels aussi à travers un regroupement des beaux-arts et des arts pour Marseille et la Méditerranée. Donc il y a toutes les notions, et donc c'est naturellement qu'on a notre place à l'intérieur.
Et aujourd'hui, quel sens cela a-t-il de travailler pour la mémoire de ce lieu, Villa Herbel ?
Ça a deux sens. Ça a le sens de mémoire, on l'a évoqué longuement. Ça a le sens aussi de fierté, de rappeler que c'est à Herbel que ça s'est passé. Et peut-être de fierté d'abord en premier lieu pour ceux qui vivent à Herbel. De créer un lieu de mémoire, un lieu culturel, un lieu d'échange, un lieu artistique, un lieu de progrès. On sait que la culture va avec le progrès. Et de sortir des clichés, de casser les clichés. Le deuxième point important, c'est aussi donner de l'activité économique, redonner de la vie, redonner envie de vivre de la vie normale grâce à l'activité économique, retrouver un rôle, partager, participer, devenir entrepreneur. Parce que moi, mon sujet, c'est de faire en sorte que le maximum des habitants, des jeunes de cette cité d'Herbel notamment et des alentours puissent devenir entrepreneurs et de les accompagner, parce que être entrepreneur, c'est à la fois être libre, c'est à la fois fabuleux, c'est à la fois compliqué, mais c'est l'essence même de la création. Et de ce point de vue là la création va aussi avec ce côté artistique.
Comment est née l'idée de créer l'association Villa Herbel ?
Elle est née d'abord de notre connaissance de cette histoire. Les trois fondateurs de l'association, Frédéric Verdet, Lionel Boula et moi-même, nous avions connaissance en tant que Marseillais, en tant que Provençaux, de l'histoire de la Villa Herbel, qui est une histoire extraordinaire, et qu'on a rencontré il y a plus de 20 ans, plus de 30 ans, exhumé par les historiens qui se sont penchés depuis longtemps dessus. Et moi-même, j'étais intervenu dans une vie antérieure, dans l'éducation nationale, auprès des écoles, pour faire connaître cette histoire il y a 20 ans. Et donc, quand on a appris qu'il y avait un grand plan de renouvellement urbain de niveau national qui visait la cité, on a tout de suite proposé un premier projet de création d'un lieu culturel. D'abord parce que ça nous semblait une évidence qu'on devait exhumer cette mémoire, et aussi parce que c'était notre conviction depuis toujours. Moi, j'ai travaillé à la Fondation du Camp des Milles pendant 12 ans, la mémoire est un levier formidable d'éducation à la citoyenneté, de formation.
Ce grand plan de renouvellement urbain pour la cité Herbel, en quoi consiste-t-il au-delà de la création de ce potentiel centre culturel ?
Alors, il sert d'une part à rénover l'habitat, un habitat dégradé. C'est une cité construite au début des années 70, tenue par trois bailleurs sociaux et qui avaient besoin d'un grand renouvellement de l'habitat. C'est aussi l'idée de désenclaver cette cité, qui est vraiment une cité au sens topographique, une cité ghetto, vraiment enclavée. Et donc il y a deux grandes voies traversantes, perpendiculaires, qui sont destinées à ouvrir la cité, à permettre aux habitants de mieux en sortir et aux Marseillais de mieux y entrer. Et en profitant d'un grand espace de terrain vague, aujourd'hui en friche, délaissé, qui sert à certains endroits de dépotoir, et d'en faire un vrai parc qui soit une aération à l'intérieur de cette cité de 6000 habitants.
Et à qui appartient ce terrain en friche qui sera peut-être le lieu du futur pôle d'attractivité, centre culturel ?
Alors, la cité elle-même est partagée entre trois bailleurs sociaux, Erilia, Unicil et la Logirem. Mais il se trouve que La parcelle où se trouvait la Villa Herbel et qui est aujourd'hui en friche appartient à la commune de Marseille. Donc voilà, ce sont là aussi plusieurs acteurs qu'il s'agit de fédérer autour de ce projet.
Justement, quelle est la prochaine grande étape du projet Villa Herbel après la signature de la convention à laquelle on vient d'assister ?
Alors d'abord, c'est de construire, j'allais dire, la faisabilité, la viabilité de ce projet d'envergure qui doit prendre 4 ou 5 ans avant de voir le jour, avant qu'un musée puisse être construit, au moins 4 ou 5 ans, et donc mettre en place la perspective de tous les axes que j'ai déclinés tout à l'heure, l'axe mémoriel, citoyen, l'axe de formation autour des arts urbains et de l'art en général, et puis l'économie culturelle. Mais en attendant, il y a une phase de préfiguration qui commence, d'abord de dialogue avec les habitants, et ensuite de recherche de locaux pour commencer à mettre en place des actions, des animations, des séminaires, des lieux de rencontre, des productions culturelles avec les écoles, avec les jeunes.
Il y a un prochain rendez-vous de prévu dans une des structures sur le terrain dans la cité Herbel ?
Alors oui, et grâce au service de la métropole, le service de la politique de la ville, le service du renouvellement urbain de la métropole, qui coordonne ce plan de rénovation urbaine. Nous sommes en dialogue avec des associations. Il y a une association Les Muses Urbaines qui veut mettre en place avec nous un projet sur les grands ensembles à partir de l'histoire d'Herbel. Avec d'autres associations, il y avait ici aujourd'hui à la Chambre de commerce et d'industrie la directrice du centre social avec qui on va aussi mettre en place des actions culturelles, socio-culturelles. Voilà, c'est un travail qui commence maintenant et dont on espère que la Chambre de commerce et d'industrie va pouvoir nous accompagner.
DLVA, le mode de gestion de la piscine se précise.
Les élus de Durance-Luberon-Verdon agglomération avaient un choix important à faire lors du dernier conseil communautaire, adopter un mode de gestion du futur centre aqualudique de Manosque. Et malgré 4 oppositions et 2 abstentions, c'est un contrat de délégation de service public qui a été décidé après avis final favorable en janvier dernier du comité de direction Idoine. Nous entendrons le président Petrini dans un instant. Un rappel, l'ouvrage comportera 4 bassins différents, sportifs, loisirs et petite enfance, des jeux aquatiques pour enfants et un espace détente sur près de 5 000 m² en tout, plus des abords aménagés d'une superficie de 10 000 m². C'est un chantier imposant pour un projet de territoire conséquent. Remplaçant sur Manosque la piscine de la Rochette devenue obsolète, le transfert éventuel des charges de fonctionnement et du personnel manosquin a été évoqué. De même que l'utilisation à l'année des scolaires et habitants des communes comme Oraison ou Sainte-Tulle, par exemple, qui possèdent leur propre piscine. Le choix d'un délégataire est judicieux, selon les élus, car gérer un tel équipement demande des savoir-faire et ressources, notamment humaines, que l'agglomération n'a pas. L'établissement d'un cahier des charges est lancé et la DLVA entend aussi contrôler régulièrement le futur délégataire. La question essentielle, un service au public par un acteur privé. L'équilibre est délicat. Écoutons le président Petrini justifier ce choix et évoquer aussi la toiture de la salle de l'Éden à Oraison, actuellement en travaux. Jean-Christophe Petrini, vous présidez l'agglomération manosquine et vous avez évoqué le mode de fonctionnement du centre aqualudique. Avant d'évoquer ce sujet avec vous, vous avez bien sûr travaillé à la concertation avec les utilisateurs et les élus.
Oui, avant de présenter cette délibération concernant le mode de gestion du futur centre aqualudique, nous avons bien entendu travaillé en amont. On avait d'abord un CODIR qui a été mis en place avec tous les maires de l'agglomération qui possédaient une piscine sur leur territoire. Des réflexions ont été faites, des études ont été menées sur le fonctionnement qu'ils avaient eux-mêmes sur leur propre commune. Ensuite, on a eu la consultation des services publics locaux. avec les syndicats. Hein, on a fait des propositions. On a également consulté le comité technique de l'agglomération. Le positionnement s'est fait sur le choix de la délégation de services publics. Pourquoi ? Ben parce que, bon, forcé de constater que ce type d'équipement, de toute façon, est un équipement qui, au niveau du fonctionnement, est très coûteux, on le sait. Et forcé aussi de constater, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes, que lorsque ce type d'équipement est géré en régie, loin de moi d'avoir des idées dogmatiques sur le sujet. Je l'ai dit en conseil communautaire, mais forcé de constater que pour ce type d'équipement, la régie est souvent beaucoup plus déficitaire que la délégation. Pourquoi ? Ben, tout simplement, c'est parce que en régie, la place est souvent donnée de manière beaucoup plus importante au tissu associatif et au monde sportif et laisse peu de place aux entrées payantes. Donc là, l'équipement permet une diversité en matière d'entrée, le tissu associatif, le monde sportif, le monde scolaire. Et la délégation aura des objectifs à atteindre en matière d'entrée payante. Donc c'est la raison pour laquelle on s'est dirigé sur ce choix-là de mode de gestion.
Vous avez également consulté les employés de la piscine de La Rochette, employés oui. municipaux de Manosque.
Tout à fait, ce sont les seuls sur les autres communes, puisque sur les autres communes, les plages d'ouverture se situent que l'été. Donc c'est souvent du personnel saisonnier qui est embauché et non pas des personnels titulaires de la fonction publique territoriale. Donc à Manosque, j'ai demandé l'autorisation à M. Desmoulins de pouvoir les recevoir, puisque ce sont des agents de ville. Alors je les ai, entre guillemets, rassurés, puisqu'ils n'auront pas obligation d'intégrer la délégation, le délégataire, puisque ce sont des agents ville et non pas des agents DLVA. Donc il n'y a pas d'obligation là-dessus. Ils ont été rassurés sur ce point-là, mais on va quand même demander dans le contrat de concession qui sera mis en place que le délégataire propose aux agents de pouvoir intégrer les effectifs. Ils accepteront ou pas, mais ce sera une proposition qui leur sera faite.
Vous avez également la volonté d'être très vigilant et de pouvoir contrôler ce délégataire.
Le gros du travail commence aujourd'hui puisque nous allons donc lancer une consultation pour une assistance à maîtrise d'œuvre concernant l'élaboration du contrat de concession. Et c'est là-dessus qu'il va falloir être très précis sur la maîtrise de la délégation. Donc on va monter ça et on espère pouvoir choisir notre délégataire courant du premier semestre 2022, puisque vous le savez, le centre acoludique devrait être livré fin d'année 2022 pour ouvrir début d'année 2023.
Vous avez également évoqué un autre équipement beaucoup plus humble, avec des financements beaucoup plus humbles également aussi, c'est tout simplement la salle de l'Éden, qui est en réfection actuellement, avec une possibilité pour la mairie d'Oraison de participer à l'effort, notamment sur le toit.
Oui, en fait, cette salle avait été transférée à la communauté d'agglomération au travers de la compétence culturelle. Forcé de constater que cette salle était occupée par la ville à 95% et que, entre guillemets, les manifestations culturelles se faisaient de manière... Il y avait très peu de manifestations culturelles DLVA. Donc d'un commun accord avec Monsieur le maire Benoît Gauvin, on a décidé que cet équipement serait à nouveau restitué à la ville. Par contre, il y a eu des soucis sur ce bâtiment-là, donc il y a eu des problèmes au niveau de la toiture. On est tombé d'accord sur le fait que la DLVA réalise les travaux d'étanchéité parce que la ville a vraiment besoin de cet équipement. À la fin de ces travaux, le bien sera restitué à la commune. Et pour qu'il y ait une équité de traitement, la commune participera à 30% des travaux de la réfection de la toiture.
Dominique Zamparini a célébré l'art de Gaston Coutet à Valensole.
Poète, libertaire et régionaliste, chanteur, anarchiste et antimilitariste, Gaston Coutet a laissé une trace particulière dans le répertoire français. Beaucoup le chantent ou l'ont chanté, anonymes ou connus, tels Piaf ou Lavilliers. Ses textes ont trouvé un militant ambassadeur en la personne de Dominique Zamparini, qui a présenté « Chanson d'un gars qui a mal tourné » à Valensole dans le cadre du festival Poésie et Chansons au Pays des Lavandes. À l'issue de son spectacle, Dominique Zamparini a répondu aux questions d'Odile Frison.
Dominique Zamparini, toujours très actif dans le théâtre et la chanson. Aujourd'hui, vous présentez un spectacle Gaston Couté. C'est important de remettre ce poète chansonnier en avant.
Oui, c'est très important parce que finalement, dans le répertoire régionaliste, puisque là, le spectacle que je fais, il est basé quand même sur du Couté régionaliste, hein, de la Beauce. Franchement, j'estime que Couté, c'est sans doute un des plus pertinents. Je connais pas tous les autres poètes régionalistes de France. En Provence, je sais que finalement, de l'époque, il n'y a pas beaucoup de poètes qui tiennent vraiment la route, autant que Couté. On est peut-être aussi dans une région qui se prête moins à la réflexion, à la contradiction, etc. Il y a le beau temps qui joue, voilà. Mais donc, pour en revenir à Couté, oui, j'estime que c'est vraiment quelqu'un qui mérite d'être connu. Et moi, j'ai l'avantage de venir de Lyon. J'ai vécu très longtemps dans Lyon. Et finalement, j'avais entendu cet accent, donc je le retrouve très, très facilement. C'est pour ça que je m'étais amusé à le jouer. J'aurais pas eu l'accent, je l'aurais pas fait, quoi. Voilà.
Qu'est-ce qui vous a vraiment motivé sur ce personnage ?
Ben c'est le message d'une part, parce qu'il est capable, comme il a un très bon sens paysan, il observe très bien les gens, et finalement il est capable en quelques strophes de raconter une histoire, de brosser un portrait, ce qui n'est pas évident, quoi. Donc et c'est très souvent bien sûr du monde de la paysannerie dont il parle. Hein. Il parle très peu des gens de la ville, excepté les gourgandines qui elles donc se retrouvent en ville, mais pour d'autres raisons.
Comment on monte un spectacle comme ça ?
Moi, de toute façon, je travaille seul. Hein, donc, je reste très, très, très longtemps devant le texte. Je lis, je me le mets en bouche, etc. Et je ne me mets en scène qu'au dernier moment. Donc, puisque finalement, le texte porte tellement qu'il n'y a pas besoin d'une mise en scène fabuleuse. Donc, franchement, je gamberge très peu sur la mise en scène. Tant que le texte ne me parle pas, c'est pas la peine. Voilà. Donc, il y a d'autres auteurs où je fais la mise en scène en même temps que je travaille le texte. Mais là, le texte est suffisamment fort.
Aujourd'hui, c'est un public bien attentif du Festival Poésie et Chansons Pays des Lavandes. Ça, c'est important aussi. Vous trouvez ce genre de public aussi peut-être dans les zones rurales ?
Alors oui, quand les zones rurales, elles sont bien préparées. Par exemple, il y a 4 jours, j'ai joué à Estoublon. Chez Gilles Grasili, donc dans son petit amphithéâtre. Lui, il a un public donc, qui est préparé à ça. Et c'est pareil, donc il a le public qui m'a suivi, on va dire, à la 3e strophe. Quoi. Donc, même si le langage est complètement. Et parfois même un peu difficile pour des oreilles provençales. Hein. Mais après, bon, il faut décomposer et puis il faut le jouer, quoi, c'est tout. Et il faut en être persuadé par soi-même. Quoi.
Alors, le public est plutôt assez âgé en général. Oui. Est-ce que vous avez ressenti que ça peut parler aux jeunes aussi ?
Alors, comme il n'y avait pas de jeunes, je peux pas le dire. Je sais pas. Je pense que les jeunes, ils ont peut-être d'autres inquiétudes et ils ont aussi d'autres formes de prophéties ou de paroles qui sont dites. Les jeunes sont très réceptifs à l'humour du café-théâtre. Donc, certains humoristes de café-théâtre peuvent leur dire des choses, parfois un petit peu extrémistes d'ailleurs, mais peuvent leur dire des choses qu'un poète ne serait pas capable de dire. Je crois qu'il ne faut pas essayer de mélanger les gens. Moi, je sais très bien qu'à 18 ans, la poésie, j'en avais rien à cirer. Donc, il faut que les choses prennent leur temps dans nos vies respectives.
Est-ce que vous avez d'autres dates, d'autres projets ? Non, il va tourner ce spectacle-là.
Alors, celui-là, pour l'instant, je l'arrête, je vais le reprendre, je suis content, parce que j'ai même trouvé une opportunité de tourner dans le centre de la France, en Bourgogne, voilà, ça c'est très intéressant. Non, là, après ça, je repars très vite, donc les semaines suivantes, sur un montage Alphonse Allais. Voilà, donc ça me plaît beaucoup parce que c'est l'humour vraiment, c'est l'ancêtre de De Vos, Francis Blanche, Pierre Dac, ça me parle beaucoup. Et là c'est complètement différent, mais là c'est vraiment du café-théâtre, quoi. Avec un humour très très particulier, très particulier. Alors, qui semble un peu démodé parfois, mais le message passe aussi très bien, quoi. On n'est plus dans une écriture de café-théâtre contemporain.
Donc ça c'est pour la rentrée prochaine ?
C'est pour le mois de juillet. J'ai toujours 3 spectacles en parallèle, voilà. Et je profite de votre présence. J'ai créé une pièce de théâtre à partir d'un événement historique très peu connu lors du passage de Napoléon dans les Basses-Alpes. Et ça s'appelle Napoléon et l'abbé de Digne. parce que j'aime bien fouiller dans les archives, et j'ai trouvé un événement très intéressant qui met en scène Napoléon et un petit curé de Digne qui se retrouve, incroyable, qui se retrouve, pour vous ça doit parler, tout en haut des Dourmes là-haut, donc quand Napoléon remontait donc pour redescendre sur Digne et que le curé faisait l'inverse. Et ce curé était cuisiné par Napoléon en personne pendant une petite demi-heure. Donc j'en ai fait une sorte d'adaptation, mais en partant vraiment du manuscrit, quoi. Voilà.
On retrouve toute votre actualité, est-ce qu'il y a un Facebook, un site ?
Alors pour l'instant, il n'y a pas ni Facebook ni site, je vais m'y remettre quand même, c'est important. Et sinon, ben, je laisse mes coordonnées. Alors donc, dominique.zamparini@gmail.com, numéro de téléphone 06 45 16 91 61.
Les estivales sont de retour.
Déjà le 21 juin a donné le ton d'une vie retrouvée. La musique et la convivialité sont de retour, même si quelques contraintes subsistent. Sur le territoire de la DLVA, plusieurs communes vont vibrer au son et rythme des groupes programmés par la DLVA, et les estivales 2021 seront clôturées par une séance de cinéma en plein air à Riez le 22 août. Notez que ce sont des communes de moyenne importance et des petits villages qui sont concernés par l'opération, à laquelle chacun apporte son aide. En tout, 17 lieux au diapason du rock festif, jazz cubain, funk ou soul, selon, pour des soirées gratuites très attendues. Vice-présidente déléguée à la culture, Sandra Faure présente les estivales. Sandra Faure, les estivales vont se dérouler dans les communes de la DLVA et c'est la culture et la fête qui va débarquer en fait dans ces communes.
Oui François, et avec un grand bonheur, et cette année on va pouvoir encore proposer, parce que l'année dernière on avait eu la chance que ce soit maintenu, hormis trois soirées mais qui étaient dues à des cas Covid au sein des groupes même. Mais là voilà, on est parti sur une belle programmation et sur l'ensemble du territoire et ça fait plaisir.
On peut dire que c'est une coproduction avec les communes ?
Oui, c'est une coproduction parce qu'on permet aux communes de choisir leur groupe. Et c'est vrai que là, c'est la 11e édition et justement, ils ont une idée précise de ce qu'ils veulent et c'est un bonheur de partager cette programmation.
Les communes s'occupent également de la réception des groupes et d'une certaine logistique ?
Oui, on les met à contribution sur ça et c'est aussi l'idée qu'on se fait du partage de ces événements, c'est d'impliquer les communes dans l'accueil des groupes.
Il y a plusieurs communes de l'agglomération qui sont concernées. Est-ce que vous faites des jaloux ?
Alors non, on ne fait pas de jaloux parce que justement, on aide les petites communes qui n'ont pas d'événements. Et les communes qui en ont, souvent ce sont des événements auxquels on participe via les subventions. Donc on aide ces communes ou les associations qui portent ces événements. Et donc on les aide par le biais des subventions. Et sur les petites communes qui n'ont pas ces associations-là, qui n'ont pas cette chance, on va justement pouvoir proposer une soirée festive et c'est important qu'il y ait cette équité.
On peut donner quelques exemples, par exemple Musique à Manosque et puis le Festival des Grandes Terres à Gréoux-les-Bains et Valensole. C'est vrai que ce sont des grosses associations qui sont soutenues et des grosses communes. Mais là, vous débarquez vraiment dans des petits villages. Et c'est un événement, en fait, quand il y a un concert comme ça.
Exactement, là on va au plus loin du territoire, sur des toutes petites communes, et c'est ce qui est important pour moi, ça a toujours été le fil conducteur de ma politique depuis le début de mon mandat, c'est de pouvoir proposer la culture de partout et pour tous, et là je crois qu'on a un bel exemple.
Vous serez de sortie pendant le mois de juillet ?
Il y a de fortes chances, et je dirais même le mois d'août aussi.
C'est la fin de ce magazine. À la semaine prochaine, François, pour un nouveau Force 7.
Merci, Olivier. À la semaine prochaine.